ou bien ce que nous imaginons. Bien que le Seigneur nous parle. Oui, il a péché de ses lèvres. Psaume 106. Versets 32 et 33. Il a parlé légèrement de ses lèvres. Ça suffit pour qu'il n'entre pas dans le pays. Et alors Samuel, ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru qu'il pouvait établir ses fils comme juges. C'est pas parce que je suis un père chrétien que nécessairement je m'en vais établir mes fils dans l'œuvre de Dieu. C'est pas mon travail. Il faut qu'il y ait un appel. Et un appel personnel. C'est pas un héritage de père en fils. Parce que moi, j'étais au service de Dieu, mes fils nécessairement le seront. Je l'espère, je le demande, hein, mais c'est pas moi qui les établira. Comprenez-vous? Et c'est là l'erreur de Samuel. Il a établi ses fils. Et le peuple n'a pas reconnu ses fils. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas comme le père. Et c'est ça, ça ne s'hérite pas de père en fils. La foi n'est pas héréditaire. C'est ce que nous devons bien comprendre. Donc, toutes ces vies sont là pour nous illustrer ce que nous ne devons pas faire, mais aussi ce que nous devons faire. Alors, vous lisez la vie de Samuel depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et puis, vous irez alors chez Élie, et je dis bien cette fois, Élie est nommé homme de Dieu. Et notre frère Noël disait hier soir que c'était formidable de pouvoir dire « l'Éternel devant qui je me tiens » ou dans vos versions « l'Éternel que je sers » ou que dont je suis serviteur et vivant. Voilà d'où sort Élie. Il se tient devant le Seigneur. Nous, on se tient devant le monde. Qu'est-ce qui réussit dans le monde pour essayer de faire comme le monde pour le Seigneur? C'est pas cela. S'il s'était tenu, dit Jérémie au chapitre 23, dans mon conseil secret, saurait-il donc à dire au peuple. Quand on nous dit, mais regardez ce que le monde désire, eh bien, il faut aller au-devant des désirs du monde. Mais le monde ne connaît pas ses vrais besoins. Alors nous employons maintenant des méthodes qui sont absolument contraires à ce que dit la parole. Mais nous disons, mais l'eau du rocher, elle est quand même sortie. Oui, mais Moïse n'est pas entré. Dieu est miséricordieux pour les âmes. Mais les serviteurs de Dieu, quelle responsabilité! Il y a un tas de gens qui sont victimes de notre enseignement, de nos méthodes. Mais on pense avoir la bénédiction du Seigneur. Eh bien, Élie, cette fois, est appelé homme de Dieu. Vous lirez, les deux premières fois il est appelé homme de Dieu, c'est par une veuve païenne. Mais oui, mais cette veuve païenne chez laquelle il a été envoyé, après que le torrent du Kérit est arrivé, chapitre 17 du premier livre des rois, vous voyez, on continue dans l'Écriture, Dieu l'envoie chez une veuve. Dieu, et j'ai encore une veuve païenne, en un temps de famine. C'est parce que Dieu aime les païens, parce que Dieu aime les hommes. Jésus le souligne dans l'évangile de Luc. Pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé là, chez les païens, à Sarepta, au lieu de l'envoyer chez les veuves d'Israël? Parce qu'il avait une ouverture pour les païens. Et alors, cette femme, quand son fils est mort, il lui dit, pourquoi, homme de Dieu, es-tu venu ici pour rappeler mes iniquités? Hein? Et elle a le sentiment que si son fils est mort, c'est à cause de ses fautes à elle. Et que c'est la présence d'Élie, homme de Dieu, qui a provoqué sa mort. Hein? Alors qu'est-ce qu'Élie fait? Il prend cet enfant, il le met sur son lit et puis il prie hein, trois fois. Trois fois il se couche sur son lit, sur cet enfant, il redemande l'âme de cet enfant. Et c'est la première résurrection qu'on voit dans l'Ancien Testament. Il n'y avait jamais eu de résurrection avant. Alors vous vous rendez compte, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu, lui, qui ne s'était pas produit. Alors il demande à Dieu une chose impossible. Et Dieu lui répond. Et alors, quand il revient avec son enfant dans ses bras et qu'il donne l'enfant à la mère, il lui dit, ton fils vit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Car tout ce que tu dis s'accomplit. Ce que ta bouche dit, eh bien, s'accomplit. Vous avez cela dans le chapitre 17, verset 24 du premier livre des rois. La femme dit à Élie, c'est la deuxième fois qu'il est appelé homme de Dieu, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Voilà qui convertit les païens. « Je reconnais que tu es un homme de Dieu et que ta bouche dit la vérité. » Mais est-ce que les païens sont convaincus que nous, les chrétiens, nous avons la vérité? Et alors vous trouvez ensuite, quatre fois, il est nommé homme de Dieu dans le premier chapitre du deuxième livre des rois. Vous verrez cette histoire d'Élie, je suis obligé, je ne veux pas vous tuer par mon étude, mais vous allez vous-même la voir et la suivre jusqu'au moment de son enlèvement. C'est les chefs du roi qui viennent pour l'arrêter et qui lui disent « Homme de Dieu, descends !» Qu'est-ce qu'il répond ? « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et se détruise, toi et ta cinquantaine. » Et instantanément, il meurt. Un deuxième commandant vient avec 50 autres hommes, puis il n'a rien appris de cela. Et il commence. Le roi dit, pas Dieu qui dit, descend, homme de Dieu descend, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te dévore toi la cinquantaine. Et il meurt. Mais le troisième qui monte, il a appris la leçon. Il dit, épargne, je t'en prie, la vie de tes serviteurs et pitié, homme de Dieu. Et Dieu lui dit, descends. Et ils sont tombés. Mais ce roi, qui allait consulter le dieu des mouches, qui oubliait qu'il y avait un dieu en Israël, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On consulte les astrologues. On consulte tous les dieux des mouches. Hein, c'est vrai. C'est le dieu des mouches. Il y a des chrétiens qui vont consulter le dieu des mouches. Comme si le Seigneur ne pouvait pas leur répondre. Et on se met sous toute espèce de puissance. Eh bien, relisez la vie d'Élie, et puis voyez son départ. Hein? Un homme de Dieu. C'est pas certain qu'il faille passer par la mort. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes encore de ceux qui attendent le retour du Seigneur? Et qui peuvent penser que peut-être vous serez de cette génération-là? Parce qu'il y aura bien une génération qui ne connaîtra pas la mort. Quand le Seigneur reviendra. Et pourquoi ne serais-je pas de cette génération? Je n'attends pas la mort, j'attends. Et puis si je dois mourir, je sais que je meurs dans la certitude de la résurrection. Je ne dis pas de date, mais c'est pas la mort que j'attends. J'attends le vainqueur de la mort. Et c'est pourquoi le retour du Seigneur fut une bienheureuse espérance. Parce que si vous dites, oh, il faut d'abord que tout le monde se convertisse pour que le Seigneur revienne. Nous sommes des imbéciles. Complètement imbéciles. Parce que vous savez très bien qu'il naîtra toujours de nouvelles personnes qui auront besoin de se convertir. De sorte que Jésus ne reviendrait jamais. Il y aura toujours plus d'enfants de la chair que d'enfants de Dieu dans ce sens-là. Alors ça veut dire que Jésus ne reviendra jamais. Si vous attendez que le monde soit converti pour que Jésus revienne, comme certains théologiens le prétendent, même chez les évangéliques, eh bien, chers amis, Jésus, on ne l'attend pas et on ne peut pas suivre vraiment sa parole. Jésus a parlé d'une certaine façon qu'on doit l'attendre quand? Aujourd'hui. Et il ne nous a pas parlé d'une façon qui nous permette de l'attendre demain. Mais nous ne serons pas non plus imbéciles au point de dire, « Puisque Jésus revient, je ne fais plus rien. » Puisque Jésus revient et que j'ai peu de temps, ça va. Je le sers. Sauvé pour servir. Et l'attente constante du retour du Seigneur dans l'Église primitive ne paralysait pas du tout l'évangélisation. Au contraire, ça l'amplifiait, parce qu'on savait qu'il y avait peu de temps. Alors, vous allez voir Élie montant dans le chariot de feu. Et vous arriverez à Élisée. Et là, je vous le dis en passant, il est nommé, lui, 29 fois, homme de Dieu. C'est extraordinaire. Celui qui a demandé la double mesure de l'esprit d'Élie. 29 fois. Depuis ce chapitre, des rois, il est appelé homme de Dieu. Et où a-t-il été pris, cet Élisée? Derrière les bœufs, alors qu'il était laboureur et qu'il labourait les champs de son père. Alors vous verrez Élisée de la charrue qui quitte ses bœufs, chapitre 19, le premier livre des rois, verset 11. Son appel, il devient disciple d'Élie, il devient son compagnon, il est témoin de son enlèvement, il demande la double mesure de l'esprit d'Élie, et quand il doit traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'il dit? En frappant avec le manteau, où est le Dieu d'Élie? Hein, vous voyez que c'est le Dieu de l'homme, hein? Alors il rappelle, où est le Dieu d'Élie? Et qu'est-ce qui se passe? Le Jourdain s'ouvre. Élie est parti, comme aussi pour Josué. Moïse était mort, mais le Dieu de Moïse n'était pas mort. Ce que j'ai été pour Moïse, je le serai pour toi. Et pourquoi est-ce que nous ne le croirions pas, nous? Ce qu'il a été pour ces hommes, il le sera pour nous. Mais à nous de croire. Et croire, c'est obéir. Abraham obéit. Et c'est ce que Dieu dit à Isaac. Si je te visite, c'est parce qu'Abraham m'a obéi. C'est parce que papa a obéi. Ton papa a obéi. C'est magnifique. Et je voudrais que vous en soyez remplis et que vous soyez marqués, non pas par moi, mais par par l'Écriture, la vie d'Élisée, homme de Dieu, témoin de l'enlèvement, et puis alors tous ces miracles. Là, je vous laisse lire. Depuis l'eau qui est assainie, l'huile de la veuve avec ses deux enfants, et puis la résurrection de qui? Du fils de la Tsunamite, qu'il appelle homme de Dieu, et tout ce que nous voyons chez cette femme qui passe par le deuil, et puis la guérison d'un païen, d'un général syrien, comment s'appelait-il? Naaman, n'est-ce pas? Vous racontez ces histoires aux enfants, mais il faut qu'elles soient vivantes en vous. Et puis, vous verrez comment l'homme de Dieu ne met pas Naaman sous un joug terrible. Moi, j'aime tellement cette parole. Quand nous avons peur pour les gens, on veut tout de suite les embrigader parce qu'on a peur pour eux. Quand Naaman lui dit, mais Élisée, que Dieu me pardonne si dans mes fonctions, quand je serai de nouveau dans mon pays, je dois encore aller avec le roi dans le temple de Rimmon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sois en paix. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Au lieu de l'écraser. Il lui dit, va en paix, il lui dit pas, tu dois plus faire ça. Nous voulons tout de suite dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous croyez que Dieu ne saura pas le montrer? N'est-ce pas? Vivons au jour le jour. Ne dépassons pas ce que la parole de Dieu nous dit. Va. Jésus dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter. Mais nous mettons tellement de fardeaux sur les âmes, tu te décourages au bout de peu de temps, et ils disent, si seulement je ne m'étais pas converti. Ils mettent en doute leur propre conversion. L'autre jour, avant 7 heures, j'ai téléphoné à une personne Si elle m'a dit, oh, merci, j'ai dit, je vous ai réveillé, elle m'a dit, non, heureusement, je me réveillais en doutant de mon salut. Alors, merci de me dire que vous êtes certain de mon salut. Mais elle avait été dans une réunion où on l'avait démolie. Parce que vous comprenez? Maintenant, on fait des conversions en masse. Et alors, il faut expliquer après les déchets. Alors, qu'est-ce qu'on prêche? Qu'on peut perdre son salut. Alors, dans la réunion qu'elle avait eue, eh bien, elle pensait que elle n'avait plus son salut. Alors, nous troublons les âmes. Je crois qu'on peut s'illusionner sur son salut. Mais on ne peut pas le perdre. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Alors vous dites, j'arriverai à la mort d'Élisée et vous verrez que jusqu'à la fin, il a eu des miracles. Puis on l'enterre et une année après son enterrement, il y a une guerre et on est en train de faire un enterrement et devant les troupes qui avancent, on n'a pas le temps de faire l'enterrement, on jette le corps du mort dans le sépulcre d'Élisée et quand il touche les os d'Élisée, il se relève, il est vivant. Un homme de Dieu, la parole est entrée jusque dans ses os. C'est bien ce que dit l'Écriture hein, dans les Proverbes. Elle est la santé de nos os. Ces paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées, dit Jérémie, elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Quoique mort, il parle encore. Puis alors vous irez chez David. Trois fois, il est appelé homme de Dieu. Lui, le double psalmiste d'Israël. Celui qui a pu entendre le Seigneur lui dire, je t'ai pris derrière les parcs de Samuel 7, verset 8. Je t'ai fait roi. Au fond, tout ce qui a été David, c'est ce que Dieu a fait de lui. L'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob, le chantre agréable d'Israël, de Samuel 23, verset 1 à 2, vient trois fois, il est appelé homme de Dieu, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 8, verset 14, dans Néhémie, chapitre 12, verset 24, et chapitre 12, verset 36. Et il est cité comme homme de Dieu pour les instruments de musique qu'il a fait. Et alors maintenant, vous avez les deux derniers, Shemaïa, et Hanan, qui sont aussi appelés hommes de Dieu, et Shemaïa est appelé deux fois, un chronique, 12, verset 22, c'est celui qui vient parler à Roboam, quand il y a eu le schisme en Israël, il vient parler à Roboam et il lui dit, ne combat pas contre Israël. C'est de par moi que cette chose a eu lieu. Et Shemaïa transmet l'ordre. Et Roboam se soumet. Dans 2 Chroniques 11, verset 2, il le dit aussi. Puis alors, le dernier, c'est Hanan, qui est le fils de Jedidia, homme de Dieu, qui habitait dans le temple. Et vous trouvez cela dans Jérémie, chapitre 35, verset 4. C'est Hanan faisait partie de la famille des Rechabites, dont Dieu se sert pour montrer que les fils de Rechab ont été fidèles à l'enseignement de leur père et n'y ont pas dérogé. Et il montre à Israël, bien vous, qu'est-ce que vous avez fait? Des hommes ont été fidèles à l'enseignement d'un homme qui était leur père, Jonadab, fils de Rechab. Ils n'ont pas voulu boire du vin. Et Dieu, on dit, il y aura toujours de ces gens-là sur la terre, donc des abstinents.
Alors ce soir, mes amis, je vous parlerai, Dieu voulant, d'un homme de Dieu dont nous ne connaissons pas le nom, mais qui s'est laissé détourner par un autre homme qui se prétendait homme de Dieu, le vieux prophète. Et je crois que, en agissant ici, nous arriverons à lier la gerbe. Et demain, alors, si Dieu nous donne d'y arriver, nous considérerons les caractères. Ça va ressortir tout simplement, parce que nous avons maintenant des exemples d'hommes de Dieu, et ça va éclairer les passages du Nouveau Testament. Je m'excuse d'avoir pris tant de temps. J'espère qu'on n'est pas mort. Touchez les eaux d'Élysée. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te demander que maintenant tu nous accompagnes par ta parole. Ta parole qui est esprit et vie, et que nous soyons renouvelés les uns et les autres. Nous voulons te demander que toutes ces vues repassent devant nos yeux, que nous commencions à nous habituer à cette merveilleuse parole qui nous donne des tableaux vivants. Non, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Et nous voulons te demander que s'il y a eu dans l'Ancien Testament des hommes qui ont été appelés hommes de Dieu, que dans notre siècle, dans cette sainte siècle, nous puissions aussi revêtir les caractères qu'ils ont eus malgré leur imperfection. Qu'il s'agisse d'un David, d'un Moïse, d'un Samuel, d'un Élie qui fuit parce qu'il a peur d'une femme après avoir tenu tête à 400 prophètes. Oui, c'est bien, des hommes ont même passion que nous, mais ils ont pourtant été des hommes de Dieu, alors qu'aucun de nous ne perde courage, mais qu'ils se sentent interpellés, et que tu nous prépares pour cet après-midi afin que nous ayons un bon moment d'échange en ta parole et sous la mouvance de ton esprit, pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance de l'Esprit. Amen. Non, mais je vous remercie de vous être prêté à ce petit interrogatoire qui n'est pas un interrogatoire, mais ça permet quand même de pouvoir mieux penser aux autres, de situer les personnes, et ça oriente aussi nos prières. Quant à moi, bien, j'ai pas besoin de vous dire grand chose, sauf que je suis entré dans ma 8e décennie, au mois de septembre, et évidemment le psaume qui m'a le plus frappé, c'est pour commencer, c'est cette étape qui est quand même assez solennelle, parce que vous savez ce que dit le psaume 90, hein, le nombre de nos années monte à 70 ans tout à coup. Ici, à cause de la grande vigueur, ils vont jusqu'à 80, leur orgueil encore est peine et vanité. Mais alors, tout à coup, 70 ans, on se dit, ben, tu as atteint la limite.
C'est vrai. Et alors, ça nous fait réfléchir, parce que nous nous rendons compte que c'est pas une question de maladie. J'aurais dû mourir à 18 ans, bien sûr, j'étais condamné, puis je suis encore là. Mais indubitablement, nous avançons, nous suivons le chemin de toute la terre, et si le Seigneur ne revient pas, nous savons qu'il n'y a pas d'espoir de demeurer ici-bas. C'est vrai, c'est David qui nous le dit dans l'Écriture. Et nous suivons le chemin de toute la terre. Comme le disait Josué avant David. Et comme ma sœur Emma me le dit, maintenant, avant nous avions nos parents devant. Si on a eu la grâce d'avoir longtemps ses parents qui ont vécu, mon père jusqu'à 80 ans, ma mère jusqu'à 87 ans. Puis maintenant, ma sœur dit maintenant, c'est nous qui sommes devant. Et c'est vrai, tout à coup, on voit les vies qui se sont faites. Si j'ai un grand-père qui a vécu jusqu'à 90 ans, une arrière-grand-mère qui a vécu jusqu'à 100 ans, mais d'autres, les sœurs de mon père, sont mortes à 25 et 26 ans, les deux frères de ma mère étaient morts à 28 et 29 ans, c'était le temps de la tuberculose, n'est-ce pas? Alors, des deux côtés, eh bien, il y avait des décès. Mais, pour moi, ce qui m'a été en bénédiction, c'est ce psaume 71, que justement Claire Lise de Benoît, une de mes bonnes amies, celle qui a écrit beaucoup de cantiques, m'écrivait, je suis frappé en lisant le psaume 71, parce que il se caractérise tout à fait, et c'est vrai que c'est presque mon histoire, et en tout cas ça reflète mes sentiments quant à mon passé, quant à mon présent, et quant à mon avenir, si j'ai encore un avenir. Vous voyez, je pense que quand même ce serait bon de le lire. « Éternel, je cherche en toi mon refuge. » Je ne savais pas qu'un jour j'aurais, par la grâce de Dieu, pu fonder une œuvre à Nice, qui a 37 ans maintenant, et qui s'appelle « Le Refuge ». Éternel, je cherche en toi mon refuge. C'est une communauté maintenant qui est prospère par la grâce de Dieu, et une de mes filles et mon gendre, qui est un enfant spirituel, travaille. Que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Vous savez, j'étais très jeune quand j'étais 4 ans malade, condamné dans les hôpitaux. Alors, ces paroles, je les connais. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Alors que les médecins m'avaient condamné, lui avait résolu de me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Et c'était un grand privilège pour moi de naître justement dans une famille chrétienne, ce qui n'est pas toujours le privilège de plusieurs parmi vous, mais c'est quand même un grand privilège de naître de parents chrétiens, surtout quand ils vous annoncent, quand on commence à grandir, tu sais, mon petit, avant ta naissance, nous avons prié pour que si Dieu nous donnait un fils, eh bien, qu'il soit à son service. Si Dieu nous donnait un fils après la fille qu'ils avaient eue, ils me consacraient à son service. Et leur prière tout à fait spéciale, c'était que je puisse devenir non pas un homme d'un milieu, mais un homme de Dieu pour tous les hommes. Pas seulement pour un groupe. Mais Évidemment, mes parents, qui faisaient partie d'une communauté, ne savaient pas, au fond, ce qu'ils demandaient, est-ce que ça allait coûter. Pour eux, comme pour moi aussi, leur prière, pour ne pas être l'homme d'un milieu, mais d'appartenir à tous. Mais quand même, quand le Seigneur m'a rencontré d'une façon personnelle, puisque j'ai été élevé dès ma tendre enfance dans ces choses, j'ai aimé ces choses, mais c'est quand même seulement à l'âge de 13 ans et demi que ces choses sont devenues personnelles pour moi. Jusque-là, on me disait, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Bien sûr que je croyais au Seigneur Jésus. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Bien sûr que je reconnaissais que j'étais un pécheur, mais on est forcément gardé par l'éducation qu'on a reçue par nos parents, surtout quand on a eu des parents très sévères et qui nous corrigeaient, et de sorte que on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et même sur nos paroles, je me souviens d'une gifle de ma mère, parce que j'étais rentré de l'école un jour, et puis elle m'avait posé une question sur quelque chose que j'ignorais, et puis elle m'a demandé si je savais cela. J'ai dit ma foi, non. Ben, paf ! Pour quelle raison ? Ben, parce qu'on n'emploie pas ma foi. On ne dit pas ma foi. Ma foi, c'est un terme biblique, et ça ne va pas être comme le monde. Donc, vous savez, je ne l'ai pas dit deux fois. Hein. Non, mais c'est vrai. On était disciplinés. Et puis, il fallait être à l'heure. Enfin, évidemment, mon père était horloger. Alors, mais c'est des principes qui nous ont été inculqués. Et on en bénit le Seigneur. Mais évidemment, je n'avais pas des gros péchés. Parce que on ne fréquentait pas le monde, on était élevé d'une façon très stricte, on avait le culte familial. J'avais un frère et deux sœurs, finalement, mais c'est à l'âge justement de 13 ans et demi que réellement j'ai rencontré le Seigneur de façon vivante et personnelle. Dans un camp, en 1931. Et, alors là, c'était la délivrance. Et je dirais aussi l'affranchissement. Avant, j'avais toujours des doutes. Surtout que mon père était un homme qui attendait le Seigneur et je me souviens de m'être levé la nuit pour aller voir si mes parents étaient encore là. Et ça nous parlait, ça. Que si on n'était pas au Seigneur, si on n'était pas converti au Seigneur, eh bien, c'est pas parce qu'on avait des parents chrétiens qu'on serait sauvé. Il fallait que ce soit personnel. Et alors, c'est par Ésaïe 53 que j'ai trouvé vraiment la paix avec Dieu. C'était un samedi du mois de juillet 1931. Alors, je m'en souviens. Mais alors immédiatement, après, c'est cela qui était quelque chose d'assez extraordinaire, le prédicateur qui faisait son premier camp, la mardi, c'était le samedi, ça s'est passé, le dimanche, j'avais encore des culottes courtes, il m'a dit, Gaston, tu vas rendre ton témoignage, tu vas dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Bon, alors je me suis sauvé, il y a ici notre ami Flao qui connaît le coin là-haut, c'était à Emmaüs, hein. Et il y avait un petit sapin, maintenant c'est un immense sapin, mais je me souviens, mon cœur allait comme ça, et j'avais envie de me sauver, parce qu'il y avait une centaine de personnes dans la salle, le soir, et puis Ernest Eby, qui était un prédicateur, qui n'était pas marié encore, là, et qui avait pu toucher mon cœur par la parole, Dieu a dit, bien maintenant, notre jeune frère va dire ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, c'était pas drôle. Il y avait une vieille dame qui s'appelait Mme Van Berchen, il y avait toutes
ces vieilles sœurs qui ont eu une influence évidemment sur moi, Madame de Benoît, qui me souriait pour m'encourager à me jeter à l'eau. C'est vrai. Et puis, alors j'ai dit ce qui était dans mon cœur, ce que le Seigneur avait fait. Mais j'ai terminé en disant, et puis maintenant je suis médecin missionnaire. Il y avait aussi le docteur de Benoît qui était médecin, qui a été missionnaire. Alors vous voyez, je voulais me consacrer vraiment au service du Seigneur. Si j'étais sauvé, si je lui appartenais, ben je serais médecin. Mais pourquoi missionnaire? Parce que j'ai toujours souffert des divisions. Et en Suisse, je voyais tous ces milieux religieux divisés. Hein. Parmi le protestantisme, il y avait une foule de milieux, il n'y a qu'à voir les annonces de culte dans le journal le samedi. Hein. Alors, où était le Seigneur? Chaque milieu prétend être dans la vérité. Alors je me disais, non, si tu restes en Suisse, pour servir le Seigneur, c'est semer au milieu des épines. Alors j'avais l'idée, la vision d'aller parmi les païens, en Afrique ou ailleurs, j'avais pensé au Tibet, pour prêcher l'évangile, tout en étant en même temps médecin. En penchant sur les corps, j'atteindrais les âmes. Alors ça, c'était le plan chéri de mon cœur. C'est tout très très dur de devoir y renoncer, parce que au bout de 2 ans, au lieu de pouvoir faire mes études de médecine, j'entrais à l'hôpital. C'était aussi une préparation. Pendant 4 années, eh bien, ça a été entre la vie et la mort, bien souvent, et j'ai vu mourir tout autour de moi, pendant des mois, une foule de personnes qui étaient entrées à l'hôpital, et puis qui partaient. On était dans des chambres, c'était pas encore des chambres séparées, hein. Il y avait 15-20 lits. Mais je pouvais avoir un témoignage au milieu de, et puis contre toute attente, eh bien, en 1936 alors, je fais ma convalescence en Italie, et c'est là, en décembre 1936, que j'ai entendu la voix du Seigneur d'une façon très précise, que je n'avais pas à essayer de reprendre mes études, mais que je devais commencer à le servir tel que j'étais à l'enseigner. C'était dramatique, c'était un samedi soir. J'étais à genoux devant ma chaise, à Domo de Sola, en Italie, chez une tante, et je disais, mais je m'en vais rentrer, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il fallait que je prenne une décision, mais je suis trop jeune pour te servir, et j'ai discuté avec Dieu, c'est pas possible, et pourtant, ça me pressait, tu dois commencer, tu prendras conseil ni de la chair ni du sang. J'entendais toutes ces paroles, parce que pendant mes nuits d'insomnie à l'hôpital, j'avais fait mes chaînes bibliques, j'avais pas une Bible scophile avec des références, hein. Je faisais moi-même mes chaînes bibliques, je partais par exemple les malades à travers la Bible, les veuves à travers la Bible, et tous ceux qui étaient dans la souffrance, les pauvres à travers la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou bien alors, plus spécialement, le Seigneur, de la gloire à la gloire. Je faisais mes chaînes avant la création, et puis jusqu'à l'établissement du règne. Alors, ça nous aide à passer des nuits. Hein. Et puis, ça meuble notre mémoire, de sorte que j'ai vraiment savouré sa parole, et dans les moments de souffrance les plus difficiles, eh bien, j'ai senti la puissance de la parole, oui, jusque dans mes os. Et alors, ce jour-là, c'était pas du tout quelque chose que je faisais habituellement, j'avais ça en horreur, au contraire, je piquais jamais un verset, mais j'ai dit au Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'appelles, eh bien, tu vas me donner une parole qui me convainc que je dois aller de l'avant. Puis j'ai ouvert ma Bible, mais je n'osais pas ouvrir mes yeux. J'ai ouvert la Bible comme ça, à genoux, mais dans la tueur. Quand j'ai ouvert mes yeux, c'était comme des lettres de feu qui sortaient. C'était Jérémie, chapitre 1er,
verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Alors, vous savez, c'est pas pour remettre en avant, mais c'est pour vous dire ce qui s'est passé dans mon cœur, parce que si je suis là au milieu de vous, c'est à cause de ça. Si j'avais pas eu cette certitude, j'aurais jamais pu tenir dans ces 50 années de ministère. Mais quand j'ai lu ça, j'ai entendu mon père et ma mère me dire, avant ta naissance, nous avons demandé à Dieu que s'il nous donnait un fils, il était au Seigneur. Et j'entends encore mon père qui me disait, tu sais Gaston, j'aimerais mieux que tu sois ramoneur sur la terre, mais te retrouver au ciel, plutôt que tu aies un grand nom, et que tu aies fait des grandes études, et que tu sois perdu. Parce que bon, on est quand même un peu pris par avoir un titre, avoir être quelqu'un, avoir un nom, même si on met après nos titres au pied de la croix. Comprenez-vous? Alors c'est dur. Je dis mais Seigneur, alors là, je dis mais si c'est toi Seigneur. Alors moi je répondis, parce que j'avais dit au Seigneur sans me rendre compte qu'il y avait un texte de ce genre, je suis trop jeune, je ne sais pas parler. J'avais dit ça au Seigneur. Puis je lis plus loin, et je répondis à Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Sans avoir eu la mémoire de ce texte, j'avais dit ça au Seigneur. Puis il me répond, et l'éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te redonnerai. Comprenez, ça vous marque. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je faisais partie depuis l'âge de 14 ans, alors d'un milieu des assemblées très strictes et très bibliques. J'avais demandé ce qu'on appelle ma place dans l'assemblée pour pouvoir participer à la scène du Seigneur. Après 3 mois d'examen, eh bien, on m'avait donné la Sainte Seine, là, à 14 ans, parce que pour moi, c'était quelque chose de capital, le souvenir du Seigneur, fait ceci en mémoire de moi, et ça a dominé ma vie. C'est pour cela que quand j'ai eu 30 ans et que j'ai été excommunié, c'était une épreuve dont vous ne pouvez pas mesurer la profondeur pour moi, parce que c'était m'exclure de la table du Seigneur, je ne pouvais plus prendre la scène. Vous me direz, ben vous aviez qu'à aller ailleurs, non? C'était pas ça pour moi. C'était pas ça. Et alors c'était une épreuve terrible. J'avais 30 ans, mais c'était l'âge où je commençais, où le Seigneur commençait. Hein. Alors je pouvais m'accrocher à lui. Mais donc, au début, donc quand j'avais 20 ans, là, quand j'ai commencé, 19 ans et demi, eh bien, je suis rentré en Suisse, parce que si le Seigneur avait été visible dans la chambre, dans la salle, ça aurait été pas plus fort pour moi. C'était lui qui était là. Alors je suis rentré, j'ai dit cela à mes parents, et j'ai fait rester les anciens de ma communauté, et je leur ai dit ce que le Seigneur me demandait. Jacques. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mes frères savaient que j'avais le désir dans mon cœur. Et je faisais l'école du dimanche, bien sûr, et d'autres choses. Et mon cœur était tout pour le Seigneur. Mais il n'était pas question que j'enseigne dans nos assemblées, des vieux frères aux cheveux blancs, chevronnés, etc. De sorte que mon ministère serait dans le monde pendant les 6 jours ouvrables, et puis le dimanche, je le faisais pour être dans une communauté de nos frères, dans une assemblée, pour pouvoir prendre la scène. Mais pendant toute la semaine, qu'est-ce que je faisais? Un ministère à ma portée. J'allais distribuer des traités dans les villages où il n'y avait pas d'église, dans mon pays, puisqu'il fallait commencer quelque part. Alors je repérais certains villages qui n'étaient pas favorisés au point de vue ecclésial, et j'allais de maison en maison, tout seul, distribuant des traités et des Bibles, des Nouveaux Testaments. Et quand j'avais visité tout un village, toutes les maisons, je connaissais un peu ce qui se passait là. Le Seigneur m'en hardissait, et puis j'allais trouver le maire, et je lui demandais s'il me louerait la salle du village. Vous savez, j'y allais à genoux, parce que le maire, est-ce qu'il allait, c'était au Jura bernois, ceux qui connaissent un peu l'Europe. Est-ce que le maire, qu'est-ce qu'il dirait de petit jeune homme, là, comme ça, et qui vient lui demander une salle pour annoncer l'évangile? Et alors, c'est là que vous voyez la puissance du Seigneur. Je voyais cet homme qui me regardait et qui disait, d'un coup, eh bien, pourquoi pas, on va vous donner la salle d'école. Et puis, pour que vous n'ayez pas besoin de retourner annoncer votre union, je ferai passer un papier aux instituteurs et institutrices pour qu'ils annoncent votre union. Et c'est comme ça que ça commençait. Alors je voyais que Dieu a le cœur des hommes dans sa main, qu'il les incline comme des ruisseaux d'eau, qu'il a dit. Et c'est ça qui est formidable. Alors évidemment, vous me direz, mais où est-ce que vous logiez? Puis qu'est-ce que j'étais pas rétribué, je n'avais pas de salaire, mais le Seigneur m'avait dit qu'il pourvoirait à mes besoins. Alors là, dans ce Jura bernois, il y avait un vieux cantonnier dont je chéris la mémoire, et qui était là avec sa femme et sa fille, qui était veuve, une jeune veuve, qui était venue me trouver, et qui est la cause du message que j'ai écrit, un message de Dieu aux veuves, parce que moi j'étais mourant, et elle est venue me dire, Gaston, toi qui connais bien ta Bible, j'ai perdu mon mari, qui était un juif converti, est-ce que tu peux me dire s'il y a des promesses pour les veuves? Puis j'en avais trouvé 75. J'avais écrit ça, hein, parce qu'on a du temps quand on est malade, de faire quelque chose. Et alors c'est comme ça qu'est sorti le message de Dieu aux veuves quand j'avais 18 ans, parce que j'avais découvert qu'il est dit que le service religieux pur et sans tâche devant Dieu, c'était de visiter les veuves dans leur affliction et se conserver pur du monde. Alors c'était ma thèse. Un message de Dieu aux veuves qui est épuisé maintenant, et je montrais à Noël une lettre de certitude de Beuvet, là, qui m'envoie une demande en me suppliant de faire encore une fois une réimpression, ça sera la troisième édition, du message de Dieu aux veuves qui était écrit il y a 50 ans par un jeune homme qui n'était pas marié et qui n'avait aucune expérience de cette vie-là et qui ne savait pas qu'il épouserait une veuve en première noce, qui devrait passer par le deuil après avoir ses 5 enfants, et que je serai encore là à 70 ans. C'est vraiment, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais c'est pour vous dire que c'est vrai que le Seigneur est là. C'est pas à ma gloire, mais c'est vrai qu'il est fidèle. Il vous éprouve, mais il a aussi compassion. Et peut-être que pour certains qui pourront mieux comprendre la vision que le Seigneur m'a donnée, donc j'allais je logeais chez ce cantonnier qui était un frère de nos assemblées et qui me recevait et qui me disait, écoute, Gaston, moi quand j'étais jeune, je voulais servir le Seigneur et j'ai pas pu le faire. Alors je casse les cailloux sur la route, hein. J'essaye de témoigner, mais toi, tu vas pas te laisser détourner de cela. Hein. Continue, et moi je prie pour toi, pour que tu donnes ta jeunesse, dans ta jeunesse, tu la donnes au service du Seigneur, parce que moi on m'empêchait. Alors, c'est maintenant que tu dois servir. Vous savez, quand un vieux cantonnier vous dit ça, hein, tout en cassant les cailloux, qu'il était sourd, il avait encore une grosse cornette, hein, c'était pas encore les appareils, mais quand j'étais petit, que j'allais là-haut, je croyais que c'était une trompette, et qu'il allait jouer de la musique là-haut. Dans l'assemblée, évidemment, ce qui ne se serait jamais fait dans ces assemblées. Mais c'était qu'il ne mettait pas à la bouche, il mettait ça dans l'oreille. Hein. Et puis il connaissait sa Bible d'une façon extraordinaire.
et nous lisions la Bible ensemble. Il y avait la jeune veuve, là, qui était là, puis la maman qui m'aimait aussi. Puis alors, je logeais chez eux, mais il y avait un grand pénitencier pour jeunes gens à 4 ou 5 kilomètres de là. Et chaque fois que je rentrais le soir, après avoir visité un village, après avoir vu mes réunions, eh bien, j'avais à genoux, j'avais cette vision de ce pénitencier. Puis la voix du Seigneur me disait, tu dois y aller.
Comment y aller?
J'ai aucun titre pour y aller. Puis voilà, c'était au-dessus de Presles, de Diès, qui était ce pénitencier. Et un jour, j'ai parlé au cantonnier, j'ai dit, écoutez, je crois que je dois y aller. Alors je suis parti avec mon sac bourré de traités, en allemand et en français. Et puis, je suis arrivé là, 11h30, je me dis, c'est complètement fou. J'avais été à pied, je traversais les champs. Et puis, je me dis, mais 11h30, puis c'est pas une heure pour se présenter. J'ai quand même été à la direction. J'ai vu le directeur, un grand Suisse allemand, des moustaches à la Guillaume, rouge. Et puis, enfin, un type impressionnant. Moi, j'étais une puce à côté de lui. Alors, il me demande ce que je veux. Puis, je lui dis, ben voilà, j'ai évangélisé les villages de la côte, là-haut. Et puis... Je lui ai raconté ce qui se passait quand je me mettais à genoux, tout bêtement, à un homme que je connais pas. Puis tout d'un coup, il m'a dit, ben, vous pouvez pas arriver à une meilleure heure parce qu'ils sont tous à table maintenant. Vous pouvez aller dans le réfectoire, il y a les gardiens, et vous pouvez distribuer. J'avais montré ce que j'allais distribuer. Alors, vous voyez, le Seigneur, c'est l'histoire de Ruth, hein. Boaz dit au serviteur de laisser quelques poignées pour la glaneuse, hein, quand on prend seulement un épi, il faut être un petit peu encouragé. Bien, tout d'un coup, voilà ce qui vous encourage. Puis je me souviens toujours, c'était ma première expérience avec des détenus, des jeunes, et j'ai eu le cœur serré, saisi en les voyant mangeant dans leur gamelle. Alors j'étais de l'un à l'autre, je leur ai donné un traité, les gardiens passaient, me regardaient comme ça, bizarre. Et j'ai essayé, en leur donnant la main, j'étais une centaine, de leur faire passer tout l'amour qu'il pouvait y avoir dans mon cœur. Puis quand j'ai eu fini, que je suis sorti, je me suis dit, il faut que j'aille remercier quand même le directeur. Puis j'ai été remercier le directeur. Puis c'est là que, de nouveau, je me suis enhardi sans le savoir. J'ai dit, mais monsieur, est-ce que je vous remercie de m'avoir donné cette possibilité? Mais est-ce que vous me permettriez de revenir un jour pour avoir une réunion pour les Français? Parce qu'il y avait des Suisses allemands, il y avait des Français. On vous dit, alors ça, jamais. Parce que ça n'a jamais réussi. On a eu un pasteur qui est venu, et ça a fait une bagarre. Ils attendaient toute autre chose que ce qu'il leur a donné. Et c'est la pire des bandes, les Belges. On appelait ça les Belges, les Français. C'est les Suisses français, c'est la pire des bandes. Évidemment, il était Suisse allemand, il couvait plutôt les Allemands. Alors, je tombais mal, puis je priais, je disais, Seigneur, mais c'est pas pour moi que j'y viens. Puis tout d'un coup, voilà un homme transformé. Il dit, et puis, au fond, si j'essayais avec vous, venez dimanche. Moi, le dimanche, il y avait une étude biblique dans l'assemblée. Alors, vous voyez, mes incartades, déjà, on pensait que je serais à l'étude biblique dans l'assemblée l'après-midi. Je serais là le dimanche matin pour le culte, mais l'après-midi, donc, que ces chers frères, décortiquant la parole, continuent à le faire. Mais ma place, elle était où? Au milieu de ces prisonniers. Et alors, mon brave cantonnier, qui était pourtant un brave frère, lui, il m'approuvait pleinement. Tu vas y aller, puis nous, on priera pour toi, hein, dans l'assemblée. Mais d'autres disaient, il aurait dû être là. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Automatiquement, vous êtes critiqué. Puis c'est comme ça, bon, je suis parti le dimanche, après le culte, avec les prières de mon cantonnier sourd, mais qui avait son oreille du côté de Dieu, hein, du trône de la grâce. Et je me souviens, je me suis agenouillé plusieurs fois le long des haies, pour demander à Dieu de me donner la force d'arriver là. À 2 heures, on m'attendait, ils étaient tous réunis, le directeur leur faisait là un discours au garde à vous, puis pendant qu'il leur parlait, la femme du directeur, aussi une grande Suisse allemande, me dit, vous savez, hein, on a décidé de vous laisser seul sans gardien, parce que comme ça, ils seront plus libres, mais vous savez, ils vous demanderont du tabac, des cigarettes, de l'argent, du chocolat. Vous n'avez rien à leur apporter de tout ça. Mais j'avais la parole, hein. Mais ils vous écouteront pas. Alors là, j'étais qu'une prière, qu'un cri. Et j'avais dit à Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Et puis vous savez, il me semblait que ma Bible était toute noire, hein, ou toute blanche. Il y a ces moments où la Bible ne vous dit plus rien. Et pourtant, il fallait que j'aille apporter ça. Puis tout à coup, l'enfant prodigue, qui m'est donné avec une force. Alors, j'ai commencé en leur montrant que si j'étais au milieu d'eux, c'était pas parce que j'étais meilleur, que j'étais pire, que Dieu m'avait révélé ce qui était dans mon cœur, et que je pourrais être dans une maison pire que celle-là, si la grâce de Dieu m'avait pas atteint. Je me suis mis plus bas que puis après, j'ai commencé l'histoire de l'enfant prodigue. Et voyez-vous, il y a eu un silence, quelque chose d'extraordinaire, et j'ai parlé pendant une heure, et à la fin de cette heure, il y en avait 12 sur les 16 qui étaient là, qui pleuraient. Et alors, quand j'ai vu cela, je leur ai demandé s'ils avaient une Bible. Personne n'avait de Bible. Je lui ai dit, mais si je pouvais vous donner une Bible, est-ce que vous la liriez? Ah oui, tous les jours. Parce qu'ils avaient été saisis par l'amour de Dieu. Alors, je leur ai fait cette promesse que le dimanche suivant, je leur apporterai une Bible. Je ne savais pas comment les acheter. Je n'avais pas l'argent pour acheter 16 Bibles. Mais le Seigneur m'avait dit de leur dire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai salués et je les ai embrassés. Alors, je suis allé remercier de nouveau le directeur. Et quand le directeur m'a vu, il a dit, vous pouvez revenir comme à la maison. Bon, il n'y avait pas eu de bagarre. Et c'est comme ça qu'on a introduit un groupe biblique dans ce pénitencier pour les jeunes. Alors j'avais écrit d'abord à Vevey, je connaissais bien le milieu, il y avait un fonds pour des Bibles, puis quand j'ai demandé s'ils pouvaient me donner ces Bibles, on a dit non. On me donnerait peut-être le Nouveau Testament, mais pas une Bible, on ne donne pas une Bible à des prisonniers. Mais moi je voulais leur donner les notes bibliques, vous comprenez, de Veynes, puisque quand même j'avais été influencé par Veynes, où j'avais trouvé le Seigneur. Et j'aurais voulu qu'ils puissent lire la Bible tous les jours et puis qu'ils aient quand même des notes qui les aident. Alors, bon, alors, puisque Vevey ne veut pas me donner ça du fond gratuit, eh bien, je demande à mon père céleste. Et c'est formidable, j'ai fait la commande, alors pas à Vevey, mais ailleurs dans une librairie, tout ça. J'ai reçu mes 16 Bibles et le même jour, au même courrier, une lettre que je n'attendais pas du tout, qui venait d'une personne qui était d'un tout autre endroit, qui disait, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis au cœur de vous adresser ce petit don. Et ça couvrait 1,50 franc de plus que mes Bibles. Vous comprenez, je peux pas nier ces choses-là, vous direz coïncidence. Ben non, pas coïncidence, parce que je disais à la postière du coin, parce que c'est une question d'évangéliser en même temps, hein, sans le vouloir. Elle voyait ce que je faisais, je commençais d'être un peu connu dans le village, quand vous restez 10-15 jours dans le même patelin, eh bien on commence à vous connaître, il y a des sympathies qui se créent, puis j'y ai montré le chèque, puis j'y ai montré ma facture, puis j'ai pu payer ma facture le même jour. Parce qu'alors que mon père m'avait bien enseigné, jamais de dette. Un chrétien n'a pas de dette. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Alors, ça, c'est quelque chose qui était fixé dans ma sensibilité. Et puis, jamais parler de nos besoins. Si tu as quelque chose à faire, la parole dit, va dans ta chambre, ferme la porte sur toi, hein, prie ton père qui connaît dans le secret, et il t'exaucera. Et alors pour moi, c'était la force de ma vie, c'est que quand tu demandes au Seigneur sans en parler à personne, puis tu vois que le Seigneur te répond sans que personne n'ait su, eh bien tu sais que ça vient du Seigneur. On a un comité dans le ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis à l'accusateur bien sûr, mais, n'est-ce pas, ils prennent leurs décisions, et puis ils donnent ce qu'il faut.
Et voyez-vous, j'étais encouragé. Et alors, forcément, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, quand je venais le dimanche matin pour le culte, ben, moi, j'adorais le Seigneur, ça, je pouvais le faire. Et puis, alors, des fois, ben, j'avais un mot de louange. Puis, si les frères étaient édifiés, il y avait les vieux frères qui disaient, tu sais, Gaston, tu vas évangéliser, là, les détenus, tu vas évangéliser le monde. Mais nous, de nos assemblées, nos jeunes, notre jeunesse, il faut qu'elle soit évangélisée. Et au fond, on n'a personne. Parce que les vieux frères, c'était de la doctrine, c'était pas tellement l'évangélisation qu'on leur faisait. Alors, il faut les amener au Seigneur. Alors, c'était les vieux frères qui me disaient, tu prends le message ce soir. Alors, forcément, il y avait toute l'assemblée, il n'y avait pas seulement les jeunes, il y avait les vieux frères. Et c'est eux qui, alors j'avais 20 ans et demi, qui ont loué la salle dans un grand village du Jura, Tramelan, et il y avait 600 personnes qui étaient là. Et j'ai fait 6 soirs, soutenus par l'assemblée quand même. Et vous savez, c'est ces moments extraordinaires, parce que le Seigneur nous donne sa force. Et le Seigneur a sauvé des âmes sans que j'aie besoin de leur dire « Avancez-vous ». Je semais la parole et elle ne retournait pas au Seigneur sans avoir fait son effet. Mais je laissais les âmes avec la parole, avec le Seigneur. Je n'y mettais pas la patte. Parce que quand on veut forcer les choses, eh bien, c'est des fruits mal mûrs, on veut les manger tout de suite. Puis on a la colique après. Hein. C'est très bien ce que ça fait. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Laissez faire le Seigneur. Il a son heure pour toutes les âmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mais après, ben, ça s'élargissait toujours. J'ai eu à cœur les cantons catholiques. Parce que ensuite, on avait des cantons français catholiques. Hein, le Valais et Fribourg, qui n'avaient pas la Bible. Alors j'avais bien lu, j'ai dû m'acheter un livre catholique sur toute la doctrine catholique. J'ai étudié ça bien à fond. Pour que je n'aille pas dire des trucs faux. Puisque j'ai fait dans le monde catholique, je rencontrerai évidemment des catholiques, et il fallait que je puisse leur répondre, mais pas en ayant lu des ouvrages protestants qui pouvaient être tendancieux. Alors j'ai étudié cette doctrine catholique. C'était le catéchisme du chanoine Boulanger, qui était très connu. Et un gros livre comme ça. Alors j'ai trouvé des vérités, et alors ce qui était véritable, je l'acceptais, ce qui n'était pas de Dieu, je le mettais de côté. Mais j'avais trouvé aussi 3 encycliques des papes qui recommandaient la Bible au peuple, qui disaient qu'il fallait donner la Bible au peuple, que si on ne donnait pas la Bible au peuple, eh bien ce serait le marxisme qui prendrait. Alors je me disais, si je rencontre des prêtres qui ne veulent pas, je leur montrerai qu'ils ne sont pas en accord avec leur pape. Il y avait Benoît XV, l'encyclique de Benoît XV, de Pie XII, etc. Et c'est comme ça que je commençais. Mais je me disais, si je suis un homme honnête, je ne vais pas aller dans un village catholique ou dans une ville catholique par derrière, faire les choses par en arrière. Hein. Je veux aller aussi dans les séminaires. Alors, au début de l'entrée au Valais, il y avait un grand séminaire, qui est l'abbaye de Saint-Maurice, ensuite. Alors, j'ai été là, trouver les chanoines. Je me souviens toujours de cette soirée, de cette nuit, avec un des chanoines de Saint-Maurice, un homme remarquable, et qui était théologien, et de notre discussion sur l'écriture. Il m'avait reçu dans sa cellule. Et alors, il a voulu me convertir, forcément me montrer qu'il avait beaucoup d'admiration pour ce que je voulais faire, mais il me dit, mais vous pouvez pas, sans avoir le témoignage, enfin, de l'Église qui vous dit ce qu'il faut penser de la Bible, vous ne pouvez pas vous-même comprendre l'Écriture, parce que vous voyez, dans le protestantisme, vous êtes tous divisés, parce que et il y a le libre examen, mais je dis, mais c'est pas le libre, la libre interprétation, il y a le libre examen, mais c'est pas libre interprétation. On n'a pas le droit d'interpréter les passages selon nos idées, mais on a des règles. Alors, il m'a testé, il a dit, ben, prenons, qui disent les hommes que je suis, moi, le fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire, le fils de l'homme, qu'est-ce que Jésus veut dire? Alors, j'ai montré qu'on ne sortait pas un verset de son contexte, mais que il insistait simplement sur son humanité et non sur le fait qu'il serait le fils de Joseph, loin de là. Et j'ai cité les autres versets, enfin, je ne veux pas t'allonger là-dessus, mais c'est simplement pour vous dire les premières discussions. Et puis alors tout à coup il disait, mais non, moi, le Saint-Esprit me dit qu'il est le fils de Joseph, fils de l'homme. Alors il ne faut pas être décontenancé, il me piégeait. Alors j'ai dit, ben alors monsieur, vous n'êtes pas un vrai catholique, parce que les catholiques ne nient pas la divinité de Jésus-Christ. Alors il a eu un fin sourire, il m'a dit, oui, mais je voulais vous montrer, quelqu'un qui n'a pas cette connaissance que vous avez de la Bible, il peut croire, fils de l'homme, fils de Joseph. C'est pas très fort, hein, mais... Alors on s'est séparés, il m'a dit, je ne puis que vous approuver dans un sens, mais... Ce n'est qu'un regret. Vous feriez une si belle âme dans notre église. On m'avait dit, mais ils te défendront, ils te jetteront en bas les montagnes, du Valais, etc. Oui, j'ai été arrêté par la police, j'ai eu toute espèce de choses, mais le Seigneur m'a gardé et m'a délivré de toutes ces choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir à cœur vraiment le monde catholique. Donc c'est pas parce que je suis venu au Québec que j'ai eu à cœur les catholiques, je les avais dans mon pays, j'ai fait le canton de Fribourg aussi, et d'autres choses. Et alors voilà, eh bien, un jour, moi qui pensais ne pas me marier, qui pensais que pour servir le Seigneur, je devais être célibataire, parce que j'avais une peur terrible du mariage, surtout que j'avais été malade, et que le mariage serait un frein dans mon ministère, puis je ne trouvais pas, j'étais trop mûr pour ça, quelqu'un des jeunes filles qu'on présentait dans l'assemblée, dans les assemblées, qui veut partager la vie d'un homme et qui est toujours loin, et puis qui n'a pas de salaire, parce que les assemblées, il n'y avait pas une caisse centrale, il n'y en a pas encore. Alors on était soutenus par des dons, mais des dons qui venaient d'individus, ou alors d'une assemblée qui, parce que vous aviez fait des réunions, trouvait bon de vous soutenir matériellement, en vous faisant un don, mais qui n'était pas du tout régulier. Mais ce dont j'avais besoin, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que je me suis marié? Mais parce qu'après, donc j'ai fait les foires, les marchés de France, avec un juif converti, on avait notre petite table, notre petit... parapluie rouge, et puis dans toutes ces villes de France où on allait, on chantait nos cantiques, nos chants de victoire, ensemble sur les deux, et on était vraiment des fous, hein. Et puis après un cantique, un verset de cantique, lui prenait la parole, puis il adressait le message évangélique aux foules, puis on offrait la Bible, ou le Nouveau Testament, ou nos traités, et puis après on chantait un cantique, parce que les gens passaient, hein. C'était moi qui faisais le message, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a fait toutes sortes d'expériences, et que je suis arrivé à Paris, dans la grande assemblée qui est en plein centre, là, du Faubourg Saint-Honoré, où il y a 500 frères et sœurs de la haute société, et puis c'était un dimanche après-midi, on m'a demandé d'apporter la parole à Paris. Oh, j'étais tout jeune, puis parler devant des professeurs de Sorbonne, etc., c'est pas drôle, hein. Mais le Seigneur m'avait donné un message, je me souviens, c'était le 22e chapitre des Actes. Je me vois toujours encore pris dans les bras du vieux monsieur, un homme assez très remarquable, c'est eux qui ont les droits sur la Bible Darby, John Nelson Darby. Alors il m'a serré sur son cœur et il m'a encouragé, parce que ce que j'avais dit avait été la parole, évidemment. Alors vous avez quand même des
des moments où vous avez un petit encouragement. Mais j'étais toujours célibataire. Puis un jour, Dieu m'a conduit à Lézin. Ensuite, c'était la ville où il y avait 3000 malades. Et là, j'ai annoncé l'évangile. Aux malades. Il y avait 3000 malades. Et un jour, que je sortais d'une clinique, à midi, le Seigneur m'a parlé. Il y avait 2 mètres de neige. C'est 1500 mètres d'altitude. Et j'ai entendu, fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin. Qu'est-ce que vous voulez dire? 28 janvier 1939, fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin. Je devais dîner, là j'avais été invité par un frère, parce qu'il y avait une assemblée là-haut, un frère qui était sans enfant, qui avait 65 ans, qui avait des grands magasins, les plus grands magasins de Lézin, épicerie en gros, puis il m'avait invité à dîner. Alors je suis arrivé chez lui, à midi et demi, puis il me dit, qu'est-ce que vous avez? Je le connaissais que depuis 15 jours. Je lui dis, pourquoi? Mais votre visage rayonne. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je l'ai rencontré. J'ai pas dit qui. Philippe de me dire tout de suite, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a tutoyé. Il m'a dit, fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin. Et qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Les larmes qui jaillissent de ses yeux, et il me prend dans ses bras et me dit, c'est 20 années de prière exaucée. C'est comment? Bien, moi, j'ai gagné ma vie avec les malades. Hein. J'ai fait de l'argent avec les malades. Mais j'ai toujours demandé à Dieu qu'un jour, il fasse monter à Lézin quelqu'un qui l'a préparé lui-même, qui puisse comprendre les malades, qui ait un cœur assez large pour être ouvert à tous, et qui annonce l'évangile aux malades. Et il dit, c'est ces 20 années de prière exaucée, ton foyer, c'est moi qui en prends la responsabilité matérielle. Mais il me dit, mais pour avoir un foyer, il faut être marié. Ah, quelle affaire. Et c'est ça, il fallait être marié. Puis il me dit, mais tu connais quelqu'un? Bien sûr que je connaissais bien des gens, mais... Il me dit, il faudrait qu'elle soit plus âgée que toi. Jamais j'avais entendu un truc comme ça. Hein. On nous a toujours dit qu'il fallait que l'homme soit plus âgé, n'est-ce pas? Mais il dit, mais toi, t'es trop mûr. Il faut que tu aies quelqu'un qui sache ce que c'est que la souffrance. Alors j'ai dit, oui, je connais une veuve qui a 2 petites filles. Et ça me motiverait encore davantage, parce que de devenir le père de 2 petites orphelines, oui. Ça, alors, ça répond dans mon cœur, parce que c'est pas pour me marier, mais c'est pour devenir, enfin, père aussi de 2 enfants, de 2 petites filles. Alors, il me dit, ben, il faut pas tarder. Je suis parti le lendemain, j'ai été chez mon père et ma mère, j'ai raconté tout, j'ai tout déballé, parce que papa et maman, c'est le Dieu de papa et maman, hein, je dois aussi leur dire ce qui se passe dans mon cœur, et je leur ai dit, et j'ai dit à qui je pensais et s'ils pouvaient l'inviter. Ils l'ont invité. C'était la veuve du docteur de mon village qui n'avait été mariée que 3 ans et qui venait d'un autre pays, qui était d'origine juive, mais qui avait été convertie. Et j'avais pu être en bénédiction à son âme, paraît-il. Et je savais que les 2 petites m'aimaient. Elles n'avaient pas connu leur père. Moi, j'avais connu leur père. Mais elles n'avaient pas connu leur père. Il était mort quand l'aîné avait 3 ans. Alors, cette jeune femme est venue. Elle avait 9 ans de plus que moi. Puis je lui ai parlé. J'ai mis 7 points, parce que j'aime beaucoup le chiffre 7, pour qu'elle dise non. C'est des avantages si elle m'épousait. Pour qu'on n'ait pas de discussion après coup. Et où était son amour? Non, mais c'était me marier pour glorifier Dieu dans la vie à deux. C'est ça la raison du mariage. Bien sûr que j'avais un sentiment pour elle que je l'aimais. Bon. Mais c'était ça qui comptait. Et alors, elle a répondu oui. Le lendemain, on est allé acheter nos alliances, on les a passées là. Et puis, j'étais délivré, 4 mois après, j'étais marié. 6 mois après, mais c'était la guerre qui venait de commencer, j'étais à Lézin, j'avais mon foyer, et je commençais le travail. Mais 4 mois après que j'avais commencé à Lézin, un dimanche matin à 5 heures, la femme de mon ami, qui prenait soin matériellement de ce foyer, me téléphone, Gaston, venez vite, Paul est mort. Et il était mort sans faire de testament. Alors vous voyez ce que ça vous donne, hein? Il vous lance, puis après, pour que vous n'ayez pas un appui charnel, il vous l'enlève. Bien sûr, j'ai tout de suite dit à sa femme, vous n'avez plus rien à faire dans cette affaire matériellement, parce que en Suisse, quand il n'y a pas d'enfant, l'héritage revient aux héritiers de sang. Alors les frères de cet ami, qui étaient des croyants, ils faisaient partie de l'assemblée aussi, mais leur femme n'était pas croyante. Et alors, elle voulait l'héritage. Alors moi, je ne voulais pas que la pauvre veuve ait à subir encore des dommages. Alors je lui ai dit, ce que M. Mitry a fait pour moi, mon ami, eh bien, je le bénis, mais maintenant, vous êtes libéré de tout ça. Parce que les frères ont fait des procès à la veuve et tout ce que vous voulez. Et on est chrétien avec tout ça. Hein. L'amour de l'argent, mes amis, c'est quelque chose d'épouvantable. Le Seigneur m'a pas laissé. Et les voies de Dieu sont extraordinaires parce que 3 jours après, il y avait l'enterrement de ce monsieur. Et c'est ça qui m'a lancé à les œufs. Pour tous les œufs étaient rassemblés. C'était le grand commerçant. Hein. Alors il y avait tous les uns catholiques et protestants, puis j'ai dû faire en plein air la prédication mortuaire, enfin, j'ai annoncé l'évangile. Il y avait les grands directeurs de Sana, les médecins, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui m'a fait connaître 4 mois après au grand public de Lézin. Et après, je suis devenu l'ami du grand docteur Royer, le professeur Royer, etc., qui avait lancé l'héliothérapie à Lézin, quand on soignait encore la tuberculose sur les montagnes, hein, à 1500 mètres d'altitude. Alors, il y a des choses extraordinaires. Je ne peux pas nier que Dieu est un Dieu vivant. Je ne peux pas nier que Dieu est un Dieu puissant. J'étais 6 ans là-haut. Mais évidemment, les gens se convertissaient. Il y avait les hospitalisés français qui rentraient des camps d'Allemagne, qu'on triait à Lyon, il y avait un accord avec la Suisse, et on a amené ces hospitalisés français à Lézin. Et alors, c'est pour eux spécialement que j'ai écrit « Révolté, résigné, vainqueur », comprenez-vous? Parce que on leur a donné cette brochure le matin de Noël, sur tous les plateaux, il y avait en allemand et en français, et c'est ainsi qu'il y a eu plusieurs Français qui se sont convertis au Seigneur. Mais quand les catholiques ont vu cela, alors il y a eu une levée de boucliers, et puis on est allé jusqu'à Berne pour me faire interdire l'entrée des Sana. Et j'ai reçu une lettre d'un officier suisse, qui était responsable des Sana de Lézin, que tous les Sana m'étaient interdits, les Sana d'hospitalisation. Pour quelle raison? J'étais un dangereux communiste, je parlais contre la Vierge Marie, etc. Des choses absolument fausses, hein. Tout était des mensonges. Et celui qui écrivait ça, c'était un protestant, n'est-ce pas? Mais soudoyé par les catholiques. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai pris la lettre, j'ai des exemples dans la Bible. Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire la lettre devant l'Éternel. Je ne me suis pas défendu, j'ai lu la lettre devant le Seigneur. J'ai dit, si c'est toi, Seigneur, qui m'interdis l'entrée des Sana, ok. Je n'ai pas dit ok parce que je ne disais pas encore. Excusez-moi, oui, là il y a une petite erreur. J'ai dit oui, alors j'accepte. Mais si c'est de Satan, je te demande de les confondre toi-même. Et c'est ce qu'il a fait. Sans que je lève le petit doigt, et finalement, j'ai reçu, je ne vais pas vous allonger là-dessus, de Berne, les autorisations officielles, et tout était arrangé quand j'arrivais dans un sana. Au lieu d'aller d'une chambre à l'autre, il y avait tout le groupe des hospitalisés qui avaient une Bible, qui se réunissait et que je pouvais donner ma réunion qui était annoncée. Voilà, mes amis. Vous allez dire, ben, il a bien évité les questions.
C'est pas ça, j'ai pas fait ça pour ça, mais je sais pas, mais je pense que peut-être ça peut aussi vous encourager, pas ce que j'ai pu faire, mais le Seigneur a fait des choses. Mais en 1947, eh bien j'avais quitté les uns pour Neuchâtel, et là, alors mes frères ne m'ont pas compris parce que j'étais demandé, évidemment, à différents endroits, et ils auraient voulu que je ne prêche que dans ce milieu-là et que je promette que jamais je ne prendrai la Sainte Cène avec d'autres croyants que ceux du groupe dans le monde entier. Alors j'ai dit que moi je ne pouvais pas me soumettre à ça, que je ne disais pas que je le ferais, mais que je ne pouvais pas signer quelque chose que, comme cela, parce que c'était sectaire. Alors j'ai été excommunié au nom du Seigneur. Et alors c'était final. J'étais le lépreux. J'avais le sida. Vrai de vrai, j'ai vu des gens qui changeaient de wagon du train entre Lausanne et Neuchâtel pour ne pas être dans le même wagon que moi. Toute personne qui sera trouvée faire un don à Gaston Raffine sera elle-même excommuniée. Vous savez, c'est seulement, j'ai pas d'amertume contre eux. Il y a 40 ans que ça s'est passé, ça. Mais ma plus belle vengeance, c'est d'avoir pu, cette année, au mois de juillet, assister au 50e anniversaire des camps que nous avions fondés avec ses frères. Et j'étais là, sans y être invité. Il y a eu un coup de tonnerre épouvantable quand je suis arrivé. On a cru que la foudre tombait. La foudre n'est pas tombée sur moi. Il y avait 900 personnes. Et ma femme, qui était à mes côtés, a pu voir tous ces gens qui, malgré tout, toute une génération qui venait dire, vous savez, votre mari, c'est par son moyen qu'on a été amené au Seigneur. Alors c'était tout à fait bouleversant. Et on a vu que toute cette génération qui n'avait pas pu dire un mot, parce qu'ils étaient trop jeunes à ce moment-là, quand j'ai été exclu, avait gardé son affection pour moi malgré tout. Alors c'était assez bouleversant. Et j'étais heureux, j'ai pu chanter mon cantique, parce que je savais par cœur qu'est-ce que vous voulez alors, quand ils chantaient, parce qu'ils chantent bien nos frères là-bas. Eh bien, ça chantait aussi dans mon cœur. Puis ils ont vu que j'étais un homme heureux, que j'étais pas crevé, ni gonflé, ni crevé, mais soutenu, supporté par le Seigneur. Alors c'est vrai que c'est ce psaume 71 qui raconte toute cette vie, qu'au fond, malgré tout, comme dit Claire Lise, ce verset du psaume 71 qui dit « Je suis comme un prodige à leurs yeux », eh bien c'est vrai, verset 7, « Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge, et que ma bouche soit remplie de louanges, que chaque jour elle te glorifie, ne me rejette pas au temps de ma vieillesse. » C'est beau, hein? Vous vous sentez interpellé quand vous avez 70 ans tout d'un coup, hein, les cheveux sont blancs. Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, et quand ma force sera est consumé. Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, si vous saviez tout ce que j'ai dû connaître, disant Dieu l'abandonne, c'est ce qu'on a dit, hein. Quand j'ai perdu ma femme, parce que ma première femme s'est perdue dans une convention, il y avait 1500 personnes, un dimanche matin, il y a 28 ans, il y a eu 28 ans, le 30 août, à Morges, et où j'avais les grandes responsabilités, des messages, et à 6h du matin, le Seigneur l'enlève, et je me retrouve avec 5 enfants. Alors, qu'est-ce que je suis? Ben, je suis un soldat, tu prêcheras quand même, tu tiendras ton poste, pas question de transporter le corps à Nice, où nous habitions, parce que pour ne pas être l'occasion d'une division, j'ai dû quitter ma ville Parce que si j'y étais resté, ça aurait fait une division, comprenez-vous? Et nous, je voulais l'unité des enfants de Dieu, je voulais pas que mon exclusion provoque une division. Mais je disais à mes frères, qui m'aimaient quand même, continuez-vous de ce travail que j'ai essayé de faire. Mais j'ai gardé la doctrine que j'ai reçue quand même. Mais, alors, oui, Dieu l'abandonne, Dieu le frappe. Mais non, le Seigneur a été là, fidèle. Et alors, vous voyez, finalement, verset 17, « Ô Dieu, ça ce sont mes sentiments, ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, etc. » Alors, voilà, j'ai pris ce psaume comme étant pour moi, depuis ce 19 septembre, où j'avais atteint cette limite, mais le Seigneur a répondu déjà à ma prière. « Ne m'abandonne pas au jour de ma vieillesse, quand ma force sera consumée. » Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ésaïe 46, versets 3 et 4. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, frères de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Et jusqu'à votre vieillesse ou jusqu'aux cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mes amis. Alors, quelles sont vos questions? Je veux quand même aller au-devant d'une, parce que j'ai eu certains échos qui m'ont permis de voir. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse être troublé. Il paraît que à table, à midi, dans un certain groupe, vous avez parlé des adventistes. Hein?